Avant de trouver ma place dans l'engagement avec mes différents projets, une question m'obstinait. Comment faire de mon métier un vecteur de transition sociétale? Comment avoir un impact et faire ma part au quotidien? Si vous écoutez Nouvel Oeil, vous vous posez certainement aussi ces questions-là. Et si j'ai choisi la Green Management School pour soutenir mon podcast, c'est parce que ça peut réellement vous aider à vous y retrouver. Se former au métier de la transition écologique, ce n'était pas si accessible il y a quelques années, mais ça l'est aujourd'hui. Ça l'est tellement que l'on ne sait plus qui croire, quelle formation entreprendre, ni ce que ça vaut. Alors j'ai fait les recherches pour vous, et j'ai trouvé l'école que j'aurais tant aimé faire il y a quelques années, quand j'étais paumée. Des cours approfondis sur le climat, la biodiversité, l'agronomie, la géopolitique, mais aussi sur les modèles économiques vertueux. Le tout dispensé par des spécialistes et des personnalités inspirantes. Créer un autre lendemain que celui qui s'annonce, c'est leur mantra. Et derrière cette idée, la mission de Green Management School est de former de nouveaux managers capables de transformer les entreprises et les organisations de l'intérieur. Toutes les informations sont en description. Merci à Green Management School de croire en Nouvel Oeil en soutenant cette saison de podcast. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Hello, je suis Victoria et j'ai 24 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro jeune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle. Pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
Moi, ce que j'ai fait aussi, c'était réfléchir qu'est-ce qui me fait vraiment peur. Pourquoi j'ai peur de retrouver dans la voiture d'un inconnu? Est-ce que vraiment il y a un risque? Et puis de déconstruire ça, puis en fait, tu vois que non. Et puis tu vois par A plus B que t'as fait des 30, 40, 50 000 kilomètres en stop, qu'il ne s'est rien passé. Mais c'est ouais, déconstruire la peur. Je pense qu'on a tous peur de tout. Je continue à être terrifiée, mais j'y vais.
Il y a ces gens qui rêvent les yeux grands ouverts. Ceux qui aiment toujours trop fort, qui collectionnent des objets étranges, qu'un détail peut occuper pendant des mois. Ces gens dont les anecdotes sont tellement absurdes qu'on les espère inventer. Ceux qui n'en font qu'à leur cœur. Ces gens-là, c'est Sarah Gisler. Le jour où elle a décidé de voyager, elle l'a fait avec sa démesure habituelle. En stop, sans ou avec peu d'argent, en dormant chez l'habitant ou dans un hamac, en récupérant sa nourriture, en la pêchant ou en l'accueillant. En alternant les moments de solitude en autonomie dans la nature et les rencontres extraordinaires, les coins perdus et les grandes villes, le froid sibérien et le sable brûlant. Sarah avait 20 ans quand elle est partie seule pour la première fois. En stop, sans argent, avec l'objectif de rejoindre le Cap Nord depuis Lausanne. Elle avait 20 ans et en a aujourd'hui 28. Elle est partie pour ne jamais vraiment rentrer. Avec Sarah dans Nouvel Oeil, on parle de voyage, de solitude et de liberté. J'espère que cette écoute te donnera l'envie d'abandon sous toutes ses formes. Hello Sarah.
Salut.
Merci d'être avec moi pour partager ce moment. J'ai lu ton livre Petite il y a plus d'un an et il m'a vraiment bouleversée. Et là, je l'ai relu ce week-end pour justement me remettre un petit peu à jour. Et il m'a tout autant bouleversée. Donc vraiment, tes mots sont d'une telle puissance, Sarah. J'ai réfléchi à comment te présenter, mais j'ai pas trouvé d'angle d'attaque pertinent tellement t'as des casquettes variées. Mais on t'introduit en tout cas souvent comme l'aventurière fauchée, puisque tu voyages principalement sans argent. Tu es partie seule pour la première fois en stop en 2015. Tu avais 20 ans, avec l'objectif de rejoindre le Cap Nord depuis Lausanne, sans argent. Depuis, tu as enchaîné de nombreuses aventures. Tu as passé des mois en Norvège, traversé le lac Baïkal à pied et la Russie en train. Tu as rencontré les nomades en Mongolie, traversé l'Atlantique à la voile et la moitié du globe en autostop. Et tu as publié surtout donc ton premier livre en 2018, Petite, qui m'a beaucoup touchée donc. Sarah, tu es encore petite aujourd'hui.
Ben merci déjà pour l'introduction, je reviendrai hein, si c'est sale. Est-ce que je suis encore petite? Non, malheureusement. Mais il s'est passé des tas de trucs depuis la sortie de Petite. Il y a eu, c'était quand? Il y a 4 ans, bientôt 5 ans.
5 ans, ouais.
Ouais, cet été ça fera 5 ans, donc forcément non, j'ai beaucoup changé, mais tant mieux, parce que si j'étais la même qu'à 20 ans, alors je serais... Enfin, c'est pas très intéressant si tu n'avances pas.
À quel moment on cesse d'être petit?
Alors moi, ça a été direct. Hein. C'est mon père est mort. Je suis plus. Il y a plus d'enfants. Moi, il y a plus rien. Mais je pense que ça dépend des gens. Moi, c'est vraiment là, ça a été un méga coup. Et puis c'est parti de là, quoi. Genre d'un coup. Non mais mon père, il était extraordinaire. Enfin, j'ai rien eu à gérer pendant toute ma vie jusqu'à mes 25 ans. Et d'un coup, je dois faire ma lessive. Puis comment tu fais ça? Enfin, c'est terrible.
Ça responsabilise.
Ouais. Non mais t'as l'air tellement con. J'ai dû commencer à cuisiner, à faire des trucs, à trouver mes itinéraires toute seule. Je sais pas, moi, je galère. Maintenant, ça va mieux. Ça fait 2 ans et demi. Donc maintenant, je m'en sors un peu dans la vie courante. Mais.
Et alors, petite, quelle petite fille tu étais?
Alors, je sais pas, parce que moi, j'ai déjà très peu de souvenirs. Et on n'est pas tous d'accord sur ça. Disons que mon père disait quelque chose, ma mère autre chose, et moi, j'ai l'impression qu'ils ont rien capté. Mais
et toi, comment tu le ressentais?
Alors moi, j'étais très seule, parce que j'avais pas d'amis, parce que c'est compliqué de se faire des amis. J'étais très curieuse, mais ça, j'ai pas perdu. C'est ce qui me sauve la vie et qui me sauvera toujours, c'est que n'importe quoi, enfin, je peux m'enflammer pour le moindre sujet, ce que tu veux, quoi. Et ça va me prendre des semaines. Je vais rester bloquée là-dessus et c'est merveilleux parce que j'apprends des tas de trucs comme ça. J'ai juste cette soif d'apprendre des tas de trucs, quoi. Mais je veux pas dire me former. Ça, je déteste, mais apprendre et puis regarder et écouter, je trouve ça super. Et je sais pas, j'avais beaucoup de cheveux et puis j'attendais d'être grande. Enfin, vraiment, je supportais pas l'enfance. Pour moi, ça a été dur d'attendre, d'obéir et puis de pas pouvoir faire exactement ce que je voulais. Et on nous dit souvent, ouais, profite, t'es à l'école, c'est facile, nanana, après t'as les impôts et tout, mais que pouic! Vraiment, tu deviens grand, et tu fais ce que tu veux. Et si tu veux, t'as les impôts, hein, tu te démerdes pour pas les avoir, sinon, hein, ça, c'est facile aussi. Mais en vrai, c'est pas, enfin, pour moi, 18 ans, c'était extraordinaire. J'ai eu 18 ans et c'était bon, quoi.
Donc, pour toi, tu voyais l'âge adulte et le fait d'être grand comme un espace de liberté plus que de contrainte où, effectivement, il faut payer les impôts et enchaîner sa vie comme un parfait petit soldat.
Ouais, complètement. Et je regrette pas d'être devenue grande, hein. Vraiment. Enfin, grande, 18 ans. Vraiment, le moment où j'étais majeure, je pouvais aller où je voulais. Je faisais ce que je voulais, vraiment, tout le temps. Personne ne me demandait rien. Et c'est extraordinaire.
Alors, tu as pu goûter au voyage, surtout.
Oui, alors oui, ça arrivait un peu plus tard, à 20 ans. Mais ça aussi, c'était vraiment une grande chance de tomber. C'était vraiment par hasard. Toute ma famille, personne qui voyage, tout le monde s'en fout. Et j'ai jamais rien eu comme, entre en matière, c'est juste, je savais pas quoi faire. J'ai rencontré des voyageurs et bim, quoi, on y va. Et puis je voulais faire comme eux et du coup j'ai fait ça pendant 5 ans. Enfin, c'est très très bien à cet âge-là où tu te construis, donc c'était très précieux.
Bah à 20 ans, tu n'as aucun diplôme, tu n'as pas de permis ni de logement fixe, pas d'argent à la banque, et tu décides de partir. Et sur ton départ, tu as écrit ce texte que je vais citer parce qu'il m'a vraiment particulièrement touchée. Tu dis: petite, on a tenté de m'expliquer que j'avais des origines par ma mère et un père qui ne peut plus courir parce qu'il a trop travaillé. En classe, j'écoutais des professeurs désabusés me raconter comment réussir ma vie. Plus tard, on m'a dit que je travaillerais dans un bureau, parce que c'est ce qu'il y avait de mieux pour moi, qu'assez vite j'aurais un mari, une maison, puis des enfants, qui verront le jour, presque par nécessité. À 20 ans, j'ai arrêté d'écouter les gens et je suis partie, seule, en stop et sans un sou en poche. J'ai traversé l'Europe jusqu'au Cap Nord. C'était une fuite de partir, comme ça.
Oh oui, à cet âge-là, oui. Enfin, c'était... Enfin, alors j'avais une vie complètement banale, mais pour moi c'était terrible. J'avais pas de grosses difficultés, mais c'est juste s'il se passe rien. Et s'il se passe rien, pour moi, j'ai envie de mourir. Vraiment, c'est direct. Hein. Et du coup, j'étais là, mais faut que je fasse un truc, quoi. Et du coup, je me suis tirée. Et puis c'était la meilleure décision de toute ma vie. Mais non, c'était une fuite. Puis après, c'est devenu une habitude. Et puis
une addiction.
Ouais. Et puis j'ai pris plus de plaisir. Et puis après, j'avais envie d'aller de plus en plus loin. Et puis machin. Et puis après, je me suis pété la gueule. Alors je suis rentrée. Enfin voilà, c'est l'histoire de ce voyage. Mais c'était très bien.
Tu décris cette expérience comme l'abandon par excellence. Qu'est-ce que tu as abandonné finalement en voyageant?
Vu que je suis partie jeune, j'avais pas grand-chose. Enfin, comme tu dis, j'avais pas une thune, j'avais pas de maison, j'avais pas de mec, j'avais rien du tout. Et du coup, c'était pas vraiment dans ce sens-là, l'abandon. C'est vraiment, tu te retrouves, je sais pas, enfin, j'étais où? Genre au fin fond de la Mongolie. T'es seul. C'est en plein hiver. Il fait hyper froid. Il y a personne qui parle un mot d'anglais. Toi, d'ailleurs, tu parles pas vraiment anglais. Et tu dois te démerder pour dormir quelque part, trouver un truc à faire. Et puis, mais bonjour, quoi, vraiment. C'est hyper galère. Et là, il y a rien. Donc, il faut vraiment réfléchir. Et puis, ça, tu découvres des qualités, enfin, sociales, notamment pour moi, parce qu'au début, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer. Et en fait, maintenant, je te tape des conférences devant 200 personnes, parce que j'ai appris à me démerder, à parler et tout ça. Et du coup, ouais, ça appelle à des ressources que tu ne connais pas. Et t'es complètement abandonné à l'autre bout du monde, quoi. Et ça, c'est, y a pas de filet, quoi. Ça me plaisait beaucoup. Mais ouais, ce qui me plaisait aussi, c'est que j'avais pas d'endroit où aller, personne m'attendait. Et du coup, alors j'étais là maintenant, et puis on voit ce qu'on fait, quoi. Et ça, j'aimais beaucoup.
Tu dis avoir parcouru des dizaines de milliers de kilomètres pour briser ce carcan qui t'étouffait depuis des années. Et pour ne plus avoir peur. De quoi est-ce que tu avais peur à cet âge-là?
Ou de tout, mais maintenant aussi.
Les mêmes peurs ou peut-être?
Non, c'est différent, maintenant c'est pire. Non, mais à l'époque, j'avais peur, je sais pas de quoi j'avais peur de l'autre déjà. Les gens me faisaient peur parce que j'avais toujours eu des soucis avec les gens, enfin, à l'école notamment. Le fait de servir à rien, de pas trouver ma place, de errer comme ça toute ma vie, enfin, ça me terrifiait, quoi. Puis de pas trouver mon truc et...
Et ça t'a réconcilié avec cette peur de l'autre, de voyager?
Ouais, bien sûr, ouais. Puis surtout que j'étais tout le temps chez les gens, donc alors là, t'as pas le choix de te faire des potes, quoi, et c'est très très bien. Parce que du coup, ouais, moi j'étais très très solitaire, et là je me retrouve sans thune, donc je fais du stop pour aller à des endroits, et puis j'ai pas de maison, donc finalement je me fais loger chez les gens, et puis après je cuisine avec eux, et puis finalement j'étais tout le temps avec du monde. Et ça m'a vraiment appris à me dire que l'autre est pas mon ennemi. Qu'on peut quand même bien s'entendre et que tout ira bien, et voilà.
En quoi la route, elle t'a appris la confiance en l'autre, justement?
Je remets un peu ma vie dans les mains de gens, quoi. Quand tu voyages comme ça, tu sais pas ce qui va t'arriver, et c'est ce qui me plaît. Mais du coup, tu te dis, ce type, il a une tête bizarre, mais il est probablement très sympa. Et puis, il va t'emmener et tout va bien se passer. Et en fait, ça se passe comme ça. Puis t'es là, voilà. Enfin, je vais plus jamais regarder les gens, de la même manière. Ça, c'est...
C'est rigolo que tu dises, en fait, ça se passe comme ça, parce que justement, pour partir, tu as décidé que tu étais forte et que tout se passerait bien. Est-ce qu'il suffit de le décider pour être forte?
Mais je pense, ouais. Mais comme maintenant, je me dis pareil. Enfin, je galère, mais je suis là, mais je suis forte, ça va se passer et tout va bien. Et t'es super, Sarah, allez, on y va. Mais je pense qu'il faut le faire, parce que sinon, il y a personne qui va le faire pour toi. Hein, donc, moi, ce que j'ai fait aussi, c'était réfléchir qu'est-ce qui me fait vraiment peur là-dedans, pourquoi j'ai peur de me retrouver dans la voiture d'un inconnu. Est-ce que vraiment il y a un risque? Et puis de déconstruire ça, puis en fait tu vois que non. Et puis tu vois par A plus B que t'as fait des 30, 40, 50 000 kilomètres en stop, qu'il s'est rien passé, et que tout va bien. Mais c'est déconstruire la peur. Je pense qu'on on a tous peur de tout. Enfin, c'est terrible. Mais moi, justement, je continue à être terrifiée, mais j'y vais. Peu importe le truc, j'y vais, quoi.
Donc on devient fort et forte en dépassant nos peurs, finalement. En osant mettre les pieds dans le plat et en se disant, en fait, là j'ai peur, mais je vais quand même y aller.
Ouais, bien sûr. Non, puis en osant foirer, quoi. Enfin, moi, j'ai eu des échecs extraordinaires dans ma vie, notamment mon bateau, là.
Ouais.
Mais voilà, mais c'est pas grave. J'ai fait tapis sur un truc complètement con à la sortie de petite. J'ai eu un peu de sous. Tout claqué dans un bateau, je savais pas naviguer. J'ai le mal de mer, je supporte pas l'eau. Enfin, voilà. Et j'ai tenté le truc et ça a merdé, mais merveilleusement, parce que tu peux pas merder plus. Il y a un moment où tu peux pas faire pire, quoi. Du coup, c'est assez joli, moi, je trouve.
Il y a une phrase aussi qui dit que je crois qu'il y a que 8% de nos peurs qui sont vraiment fondées. Ces 92 autres pourcents, comment tu les expliques? Au-delà de la peur de l'autre, toi, lesquelles t'envahissaient comme peur?
Rien que les faits divers, les trucs comme ça. Enfin, j'ai plus de télé maintenant parce que ça te rend fou, je trouve. Tout ce qui est, actualité. De toute façon, ça se passe mal et puis le monde va mourir et puis on va tous crever dans d'atroces souffrances et il pleut en Auvergne. Bon, alors ça, c'est tout le temps. Après, je sais pas, mais non, mais c'est triste, c'est dramatique. Faut plus écouter ça. Alors, c'est peut-être vrai, mais on verra bien. De toute façon, on va mourir. Donc, allons-y. mais du coup, il y a une peur, de manquer, une peur de l'autre, de se perdre, machin. Enfin, moi, je vais beaucoup dans les classes, justement, parler avec des jeunes sur qu'est-ce qu'ils vont foutre, quoi. Parce qu'ils ont 16 ans, ils sortent de l'école et puis on va où maintenant, quoi.
Qu'est-ce que tu leur dis à ces jeunes, maintenant, aujourd'hui?
Je leur dis déjà que ça vaut pas la peine de se suicider à 15 ans parce que t'as pas les bonnes notes, quoi. Je crois que c'est un truc qu'il faut rappeler, qu'en fait, c'est pas grave. Si t'échoues dans un truc très scolaire et que t'es pas bon là-dedans, en fait, j'ai pas le bac, j'ai rien du tout, je m'en fous. Puis j'ai jamais eu de problème à trouver du boulot, enfin, ça va très bien. Mais du coup, elle est déjà les rassurer parce qu'il y a beaucoup de pression de tous les côtés. Et puis, mais la suite, c'est pas si mal, parce que je maintiens qu'on nous dit vraiment que quand t'es gamin, c'est super, et après, c'est l'enfer, et en fait, pas du tout. Il y en a qui s'en sortent beaucoup mieux après. Donc ça, j'essaie de leur dire, et puis après, qu'il faut voir grand, quoi, parce que sinon, il se passe pas grand-chose.
La peur du futur, elle te hante aussi? La peur du demain?
Bah, je crois pas. Non, ça va bien. J'ai vraiment traversé une période de merde, là. pendant un an et demi, je suis pas sortie de chez moi. Enfin, c'était très dur. Bah, après le décès de mon père. Et maintenant, je vois pas trop ce qui peut m'arriver, quoi. Donc, j'ai plus peur. Le pire truc qui pouvait m'arriver, c'est passé. Donc, maintenant, je suis assez libre de ça, quoi. Et non, puis le demain, bah, je sais pas, on verra bien. Ça me fait pas peur du tout, non.
Et il y a aussi un mode de vie que tu mets en place qui est très sobre, qui peut-être te détache de cette peur de manquer que beaucoup ont, de « j'aurais peut-être pas assez d'argent demain, j'aurais peut-être pas ci, j'aurais peut-être pas ça ».
Oui, bien sûr, mais si ça se trouve, demain, t'es mort. Hein. Donc, donc, mets pas trop de ce côté.
Merci de le rappeler. Carrément.
Non, je sais pas. Non, moi, j'ai rien du tout. Je bosse le moins possible juste pour payer le loyer, pour avoir un toit, avoir à manger, et puis, me déplacer. Et puis, j'ai mes vieux vêtements, tout va bien, quoi.
Et t'es libre.
Ouais, voilà, ouais. Non, du coup, je bosse à 50% et moins. Et du coup, tout le reste du temps, je fais mes trucs. Et mes trucs, alors, c'est très large, quoi. Ça peut être ne rien faire, quoi. Parce que j'aime bien rien faire aussi. Enfin, je m'ennuie jamais. Je suis très contente quand il se passe rien. Donc voilà, mais d'avoir un rythme pour avoir de l'argent, je vois pas pourquoi je ferais ça, quoi. Puis en fait, on peut vivre comme ça. Enfin.
Bah, tu en es l'exemple.
Ouais, bien sûr. Mais tu sais, on te dit, si tu bosses pas, que t'as pas de thunes, tu finiras dans la rue et tout. Puis en fait, pas du tout. Tu te trouves une chambre, truc alors qu'il ressemble à rien, mais c'est pas grave. Puis t'es heureux et tu fais ta vie, quoi.
Tu te contentes de peu.
Ouais, mais c'est même pas me contenter. Enfin, moi, ça me comble. Oui. J'ai besoin de rien d'autre, quoi. Vraiment.
Et est-ce que ton entourage vit comme ça aussi et comprend ton mode de vie?
Oui, bien sûr. Bah, mon copain, c'est la même, hein. On a à peu près la même chose. C'est très bien. Et puis, après, tu choisis tes potes, quoi. Moi, j'ai choisi un peu, pas par rapport à ce qu'ils gagnent, mais je connais personne qui a du pognon, vraiment. Et on s'en fout complètement. Mais par contre, je connais plein de gens qui font plein de trucs. Et du coup, ça, c'est vraiment bien.
Tu crois qu'on attire aussi les personnes en fonction du mode de vie qu'on adopte?
Bah, je pense quand même. Bah, en tout cas, moi, je rencontre des gens très normaux tout le temps, et puis au bout d'un moment, je sais plus quoi leur dire, quoi. Et puis les autres avec qui j'arrive à créer un lien plus profond, c'est parce qu'on a des choses en commun. Et qu'ils ont. Et c'est pas ce truc de liberté, mais plus de recherche. Moi, j'aime bien chercher des trucs. Enfin, encore une fois, très très curieuse, et du coup, jamais arrêter de chercher, peu importe quoi. Puis je sais pas ce que je cherche, hein, je tourne en rond, mais au bout d'un moment, ça va. Il y a un truc, quoi. Il y a toujours un truc. Et du coup, je tombe beaucoup sur les gens comme ça. Et un peu fou, un peu bizarre. Et puis moi, je les adore.
Cette recherche, elle se manifeste aussi dans ton mode de vie. Et tu me disais tout à l'heure que tous les 6 mois environ, tu changeais de lieu de vie. Pourquoi?
Ouais, alors peut-être qu'il faudrait que j'arrête ça, parce que ça fatigue tout le monde, quoi. Parce que j'ai beaucoup de gens qui m'aident pour les déménagements, mais... mais je sais pas, j'aime bien changer. Mais limite, je change pour l'immeuble d'à côté. C'est pas grave. J'aime juste... Je suis toujours un peu dans le même coin quand je suis en Suisse, enfin dans l'endroit où pas où j'ai grandi, mais où je suis arrivée quand j'ai choisi où j'habitais et que j'aime beaucoup, enfin à Vevey en Suisse, dans le coin. Mm. Et du coup, ouais, je fais que de bouger, mais je sais pas. Une fois, j'étais en coloc, j'en avais marre d'être en coloc. Du coup, je me suis mise seule. Après, j'en avais marre d'être seule. Je me suis mise en couple. Après, machin. Puis maintenant, on part tous toute la coloc ailleurs et voilà.
Et c'est quoi? C'est la peur de tomber dans une routine, dans un quotidien que tu connais trop bien?
Je crois pas, non. Parce que du coup, la routine, je l'ai quand même. Même si je change de maison, ça change pas grand-chose. Ça change pas qui je suis, ça change pas mes activités.
C'est juste un autre décor.
Ouais, c'est ça. Non, changer de décor. Mais c'est pareil avec le voyage. Moi, j'allais pas faire des trucs extraordinaires. Alors oui, bah tu disais que j'ai traversé le Baïkal à pied. Alors il faut dire vite. Hein. J'ai fait un tout petit bout et je me suis perdue. Je pleurais. Enfin, c'était dramatique. Je suis pas une grande aventurière. Puis l'aventurière fauchée, à la base, c'était une blague parce que j'ai pas une thune. Puis mon père me disait que j'étais une fauchée. Et puis moi, je disais, non, je suis une aventurière fauchée. Et du coup, c'est devenu le nom du blog. Et puis, puis en fait, il y a eu un quiproquo, je crois, parce que les gens pensaient vraiment que j'étais une aventurière et que je me décrivais comme telle, alors que pas du tout. Mais je vois rien du tout par rapport à ça. Enfin, par rapport à Mike Korn ou quoi, mais elle laissait tomber. Moi, je pleurais dans mon coin.
T'oses ouvrir la porte que tu ne connais pas, et ça, c'est de l'aventure.
Ouais, ouais, alors oui. Non, dans ce sens-là, oui. Mais c'est...
Je prends l'exemple que tu vas nous raconter, de cette fameuse personne qui t'a accepté en stop et qui ne t'adressait pas un mot du voyage, et où toi, tu t'es sentie bah, terriblement seule, et où je te laisse raconter
ce passage qui m'a
vraiment fait réfléchir sur la peur de l'autre et sur comment on se sent avec les autres. Mm-hmm, et comment on interprète aussi finalement une situation.
Ouais, alors ça, ouais.
Et ça, c'est l'aventure. Être allé dans cette voiture avec cette personne-là, c'était de l'aventure.
Ouais, mais pour le coup, j'avais pas méga le choix, parce que t'es fin fond de la Norvège, il pleut, c'est déjà compliqué, y a pas de voiture qui passe, t'as un mec qui s'arrête, sauf si vraiment il fait flipper, t'y vas, quoi. Et du coup, j'ai été, mais le problème, il me semblait à peu près normal, quand même, physiquement et tout. Et d'un coup, il me regarde, il parle pas, puis pendant tout le trajet, puis au bout d'un moment, tu paniques un peu, quand même. Et puis en fait, l'affaire, c'est que je ressemblais beaucoup à sa fille, qui ne voyait plus depuis des années. Et puis à un moment, il a fondu en larmes, quoi, ce gros bonhomme là. Enfin, c'était assez impressionnant. Puis moi, j'avais pas capté ça du tout. Je pensais qu'il allait me tuer, quoi. Et en fait, ouais, on était complètement dans deux trucs différents. C'était très drôle, mais c'était quelqu'un de super. Après, on a chanté dans la voiture et tout le reste du trajet. Enfin, c'était hyper beau. Puis je crois que ça l'a réconcilié aussi un peu avec cette partie de sa vie. Moi, ça m'a rappelé à quel point j'adorais mon père. Et puis voilà, c'était très touchant. Ouais, je l'écris mieux que je le raconte, hein, mais.
Et ben justement, en parlant d'écriture, j'ai un autre petit passage à citer qui m'a tout autant marqué. Tu écris « Je me questionne quand j'entends ma mère râler sur son métier depuis plus de 20 ans. Est-ce vraiment ça la vie, faire aller ? Comment peut-on supporter ça ? Réveil à 6 heures, embouteillage sous la pluie, petit chef véreux, pause pipi chronométré, déjeuner sur le pouce, la menace du burn-out. Tout ça pour rentrer à la maison épuisé. Produire toujours plus vite. Être finalement dépossédé de cette production. » Alors qu'est-ce que la vie, Sarah, si ça n'est pas ça ?
C'est le reste, je pense.
Et le reste, c'est quoi ?
Découvrir des trucs, pour moi, vraiment. Enfin, je sais pas, il y a deux, trois jours par semaine où je bosse, et le reste du temps, je fais la vie, quoi. Puis même quand je bosse, alors faut le dire vite aussi, quoi. Mais je suis présente.
Qu'est-ce qui te remplit le plus, finalement, au quotidien ? Est-ce que c'est tes relations ? Est-ce que c'est les temps de vide avec toi-même, à ne rien faire ?
Tout est important. Vraiment, j'ai une très belle relation, j'ai beaucoup de chance et j'en prends grand soin parce que c'est très important pour moi. Et ensuite, là, je suis partie dans ma cinéphilie, j'ai vrillé complètement, j'ai fait un tableau de 5000 films qui part des années 20 du siècle passé jusqu'à aujourd'hui avec 500 réalisateurs du monde entier, puis je découvre ça et j'adore ça. Et ça, pour moi, enfin, ouais, c'est aussi bien que le voyage. Et ça me comble complètement. Je suis très très contente. Et de rencontrer, enfin, il y a mes proches, mais après il y a les gens que je rencontre par ailleurs, que je connais pas du tout. Enfin, je suis très contente. Je me suis fait pote avec le mec de l'ascenseur, là, dans mon bureau. Enfin, non, mais je trouve ça super.
Il est tellement gentil.
Ouais. Non, mais pour moi, c'est ça. Enfin, c'est ça la vie. C'est, je sais pas, il y a quelqu'un que tu parles avec, et puis ce sera mieux que de pas parler avec, quoi. Suivant comment. Sauf s'il est très con, mais c'est pas la majorité. Mm.
Et comment on prend soin des relations ?
Oh bah ça c'est compliqué, hein, c'est une vie de essayer de comprendre ça. Il y en a que j'ai foiré vraiment, puis après il me semble que c'est pas un gros effort, enfin.
C'est naturel.
Ouais, quand tu tiens à quelqu'un, bah tu l'écoutes déjà, je crois que c'est important, et puis t'essaies de te faire qu'il aille bien et d'en prendre soin de lui ou d'elle. Et... je sais pas, non, moi j'ai beaucoup de grandes amitiés, mais vu que j'étais beaucoup en voyage, je les ai pas vues souvent, pendant plusieurs années. Et en fait, je les vois, je sais pas, une fois tous les mois, deux mois, trois mois, et chaque fois qu'on se revoit, c'est pareil. Et ça, c'est quand même très beau. Et alors que tout a changé, enfin, ma meilleure amie est devenue maman, elle s'est mariée, machin, elle habite à la campagne, dans son truc. Et on n'a pas du tout les mêmes vies, mais c'est juste quelqu'un d'extraordinaire. Et du coup, je fais très attention à elle. Je crois que c'est ça, l'attention que tu portes aux choses, quoi, qui tiennent. Enfin, les choses qui comptent.
Quel rapport tu as avec le temps qui passe, qui file ?
Bah, je sais pas. C'était assez bizarre parce que moi, du coup, je me suis retrouvée à 24 ans avec Petite qui sortait, le livre, donc. Et en fait, tous mes rêves étaient réalisés. C'était dramatique. J'ai fait une dépression terrible après ça. J'ai fait bon tour du monde en stop. Là, j'étais contente. J'ai publié Petite, c'était un succès en plus. C'était pas prévu. Et du coup, tu te retrouves à 24 ans, t'as plus rien.
Donc, les rêves n'entraînent pas les rêves ? Tu n'as pas d'autres rêves qui se sont dessinés au fur et à mesure que tu as fait tes voyages, que tu as écrit ton livre ?
Bah, les voyages ont amené au livre, et puis le livre, je sais pas, a peut-être manqué un peu plus, et voilà, mais c'est... Ouais, c'était dur, et du coup, le temps qui passe, c'est compliqué pour moi, parce que j'ai été vite, quoi. Et là, bah, je mets un peu un frein depuis quelques années pour aller plus lentement et profiter plus de certaines choses, quoi. Mais ça me fait pas peur, enfin, je sais pas. Franchement, le pire m'est arrivé. Maintenant, ça va. Tout ira bien.
Tu crois qu'il faut vivre le pire pour ne plus avoir peur ?
Bah, pas forcément. Je le souhaite pas. Enfin, moi, petite, j'avais pas vécu le pire, quoi. Je pensais, mais pas du tout. Enfin, le voyage de petite, je veux dire. Et puis, non, mais non, y a pas besoin. Je pense qu'il faut juste prendre conscience que ça va arriver, quoi. Et puis que c'est, enfin, la fête est courte, quoi. Mmh. Allons-y, quand même.
Tu te le rappelles, ça, souvent, que la fête est courte ?
Ouais. Mais il y a des fois, tu peux pas. Moi, je traverse quand même des périodes dépressives assez, assez violentes et récurrentes. Et du coup, tu peux pas te dire, allons-y, 13-50 ans à vivre, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Mais ouais, non, c'est plus quand je suis heureuse, quoi. Je me dis, oh, mais j'ai trop de chance de vivre ce moment-là, quoi. Parce que, purée, il y en a pas tant, des moments comme ça. Et faut que je garde ça dans ma mémoire pour les jours où ça ira pas, justement.
C'est balancier, de moments plus dépressifs et ces moments plus de joie. Aujourd'hui, avec un petit peu de recul, tu arrives à les expliquer ou pas ?
Oh non, pas du tout. Je suis quand même très sensible comme personne. Du coup, le moindre truc qui effleure les gens, moi, ça me fout à terre pendant 3 semaines. Mais ce qui marche mieux avec les années, c'est que j'arrive à voir où faut pas que j'aille pour éviter ça. Enfin, justement, dans les relations, dans le fait peut-être d'avoir trop d'activités, puis après, je suis en burn-out ou quoi. Enfin, juste, il y a des pièges que je connais et dans lesquels je tombe plus. Après, il y en a d'autres hein, où je continue et puis il faut se les prendre 10 fois pour comprendre le truc, quoi. Mais non, j'arrive pas trop à expliquer. Je pense que c'est un peu chronique. Et puis
voilà. Faut l'accepter.
Mais... ouais, c'est ça. Non, tu vis avec. Il y a des fois, bah, là, c'est l'hiver. Alors forcément, je suis pas bien, quoi. Mais il y a l'été qui revient et puis tout ira très bien.
Aujourd'hui, tu as 28 ans. En quête permanente, un sac à dos et un stylo comme garde-fou. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à écrire ?
Oh là là, ça c'est compliqué comme question.
Je t'avais dit que je ne t'épargnerais pas.
Ouais, ouais, qu'est-ce qui poussait à écrire Moi, c'est vraiment que j'avais accumulé une bonne matière, je pense, pour faire un livre. Et puis je voulais parler de ce que je faisais parce que je voulais trouver... Enfin, je regrettais quand je suis partie à 20 ans de ne pas être tombée sur un blog ou n'importe quoi d'écrit qui parlait de ce que j'allais faire et pourquoi je le faisais. C'était tout, regardez, c'est merveilleux, je suis en voyage, c'est très beau, tout va bien. Mm. T'es là, bon, bah super, ça ne m'avance pas du tout. Mm. Et du coup, j'ai fait le blog en mode, j'ai traversé ça, c'était méga la merde, mais j'ai trouvé ça, peut-être essayez, si vous êtes dans la même situation, il y a peut-être moyen. Et livre, c'est la continuité de ça, parce que le blog a beaucoup marché, puis... Après, je me suis dit, le format blog me saoule déjà parce que c'est sur Internet, puis les gens, ils te harcèlent. c'est assez dur à vivre. Les réseaux, tout ça, puis ça, c'est chronophage, ça m'allait plus du tout. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, on va faire un livre, mais du coup, qui permet plus de m'étendre sur des trucs qui m'intéressent. Parce qu'un blog, c'est quand même court comme format. Si t'écris un article de 50 pages, bonjour, quoi. Et donc, le livre me paraissait bien pour ça, puis j'ai eu la chance de rencontrer l'éditrice de Petite qui m'a poussé un peu au cul parce que il faut, enfin c'est vertigineux quand t'as 20 ans et que t'écris un livre, bah c'est un peu flippant quoi. J'ai énormément lu en voyage parce que j'avais pas Netflix, j'avais pas de téléphone, j'avais rien du tout, donc voilà, beaucoup lu. Avant je lisais pas vraiment et du coup je me suis dit mais en fait moi aussi je peux le faire quoi. Et puis maintenant c'est encore autre chose parce que là je travaille sur le deuxième livre.
Oui.
Alors on peut pas dire que je suis très avancée mais déjà plus que rien. Et puis je me dis j'aimerais faire le livre que j'aurais aimé trouver quand mon père est mort justement et que je me suis retrouvée complètement seule et perdue et désespérée. Et en fait il y a des mots qui peuvent aider quoi. Et du coup dire moi j'ai vécu ça comme ça, ça m'a fait ça, j'ai eu mal là. Si vous vivez ça c'est normal en fait. Enfin moi en tout cas ça m'est arrivé. Et du coup je trouve ça cool de faire les livres qui manquent. C'est un peu ça. S'il existait je l'écrirais pas quoi. Enfin, ça m'intéresse pas de rajouter des livres. Il y en a déjà des millions. Enfin, on peut arrêter quoi. Mais là, c'est important et il y a pas eu ce message-là dont j'avais besoin, donc je le fais. Voilà.
Et au-delà de remplir ce message qui n'est pas encore là, est-ce que toi personnellement tu retires de l'écriture ? En quoi ça peut te soigner ?
Bah déjà, c'est assez fou. Enfin, il y a des pages justement que j'ai écrites sur mon père et il y a un moment où je savais même plus que c'était moi qui écrivais quoi. Et ça a mis exactement le point sur l'endroit où j'avais mal à ce moment-là. Le fait de pas savoir où il est, et puis la seule manière de savoir où il est, c'est de mourir moi, et j'avais vraiment une angoisse par rapport à ça. Puis ça, j'avais pas compris que c'était ça qui me faisait du mal.
Donc
à ce moment-là.
Tu écrivais sans être consciente de ce que tu écrivais?
Ouais, il y a un moment où j'ai vrillé, ouais. Ça arrive des fois. Mais après, tu sors de là, t'es lessivé, t'es moitié mort, quoi. Faut te porter de la chaise. Enfin, c'est assez violent.
Ah ouais, à ce point-là?
Ouais, non, il y a des fois, c'est violent, ouais. Et puis il y a des fois, il se passe rien. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des coup de génie un peu, alors je me prends pas pour de la merde hein, quand je dis ça, mais des moments, des instants où tu contrôles pas. Ouais, tu contrôles pas et c'est extraordinaire. Et tu sais, t'as 2 pages en faisant ça, c'est pas très prolifique. Et ensuite, tu brodes autour, quoi. C'est ça que je fais. Donc, il y a eu quelques passages où vraiment j'étais très inspirée et puis tout était clair. Et ensuite, je fais en sorte que ça devienne un livre et qu'on comprenne ces passages-là qui sont les passages clés. C'est un peu ça.
Et alors ces passages de deux pages qui arrivent de temps en temps comme une lumière, est-ce que il y a des moments propices pour qu'ils te tombent sur
la figure ? Non, c'est au bol. Hein. Tu peux l'attendre, il se passera rien. C'est un peu chiant ça.
Est-ce que ça arrive parfois même quand tu ne t'es pas mis en position d'écrire ou tu es juste dans le métro et là, ah blanc, ça arrive. Ok, sors ton carnet.
Ouais, alors ça arrive, mais c'est plutôt chez moi en général. Et puis des fois ça arrive aussi parce que je me mets à écrire et que c'est nul. Et il y a un moment où, je sais pas, ça se débloque, puis ça y va.
Donc en écrivant, ça arrive aussi.
Ouais. Oh, bah, c'est mieux quand c'est comme ça, parce que sinon, bah, tu peux un peu rien en faire, quoi. Mmh. C'est un peu dérangeant. Mais le fait d'écrire, après, ça te fait écrire plus. Enfin, là, j'écris chaque jour 2-3 heures. Et il y a des fois où je pars sur 10 heures parce que je suis inspirée à ce moment-là. Tant que si je me dis, j'attends le moment où ça me tombe dessus, bah, ça t'avance pas, quoi. Là, j'ai attendu pendant 2 ans. Donc maintenant, je me mets au boulot un peu.
Maintenant, là, tu carbures. Tu écris « Soyons libres, puisqu'on a la chance de le pouvoir ». C'est quoi pour toi la liberté ?
Bah de choisir nos vies. Je crois que c'est pas... On a vraiment beaucoup de chance, en vrai. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Je dis pas les pauvres, les riches, machin. Enfin, il y a aussi... Moi, j'ai été très frappée par mon père, qui était malade, handicapé depuis très longtemps. J'avais 7 ans quand il est tombé malade. Et du coup, lui, il ne pouvait pas quitter son village et il pouvait pas faire grand-chose. Et du coup, moi, je me dis, mais en vrai, j'ai tout ce qu'il faut, quoi. Genre, mon cerveau marche. Alors oui, j'ai mes épisodes dépressifs, mais voilà, j'ai deux bras, deux jambes, j'ai le bon passeport, je peux aller n'importe où et faire tout ce que je veux, au-delà de voyager, mais vraiment, je peux choisir de construire ma vie, quoi. Et ce serait un crime de pas le faire pour moi, parce que tu peux, donc vas-y. Je sais pas.
Tout le monde peut.
Non. Non, vraiment pas tout le monde. Enfin, il y a des pays où tu peux pas être libre. Déjà, ça c'est, tu le vis autant que moi. Oui. C'est beaucoup plus compliqué. Il y a encore une fois, enfin, des problèmes physiques, mentaux où tu ne peux pas faire ça. Mais si t'as tout ce qu'il te faut, tu veux quoi de plus? Enfin,
Et c'est quoi tout ce qu'il nous faut? La santé, hein, toi sur le dos, à manger tous les jours, ça suffit?
Oh, mais c'est amplement suffisant. Mais déjà la santé, c'est cool, quoi. Déjà t'as ça, t'es déjà bien, quoi. Et si t'es dans un pays où en plus tu peux être libre, en tant que femme ou pas, ou n'importe quoi, enfin, si déjà tu peux choisir ta vie, alors je vois pas ce qui te manque, quoi. Oui, après un toit, bah c'est super, tu vas en trouver un, ça se fait facilement. Le problème quand t'es libre comme ça, c'est que tu peux confondre l'infini et l'indéfini. Je sais pas si ça te parle.
Oui, complètement.
Et te perdre complètement. Et ça, c'est le risque de finalement plus rien foutre, quoi. Et puis de finir je sais pas où, enfin.
Donc on peut se perdre finalement dans trop de liberté.
Oh, bien sûr.
Et
oui.
Dans trop de choix.
Oui, oui. Mais faut, ouais, après, faut savoir un peu gérer ces trucs, quoi. Ça, je sais pas comment je m'en suis sortie. Moi, je suis quand même passée par des coups durs par rapport à ça, mais.
Mais le voyage, en tout cas, t'a permis de prendre conscience des chances que tu pouvais avoir.
Bien sûr, ouais. Non, mais on a du bol comme pas permis, hein.
C'est clair. Et à quel moment tu as réalisé que finalement, ce bonheur aussi qu'on pouvait nous vendre en Occident, il faut en avoir toujours plus et remplir nos armoires, à quel moment tu as compris que ça n'était pas pour toi?
Mais très jeune, mais j'ai compris que c'était pas si vrai. Je crois que c'est pas pour grand monde en vrai.
C'est illusoire.
Ouais, bien sûr. Mais la vie est pas là-dedans. Mais ouais, encore une fois, c'est mon avis. Après, justement, moi j'avais ma mère qui aimait pas son boulot, mon père qui avait trop bossé, qui s'est pété le dos, puis ma mère maintenant qui est malade aussi, qui a fait le même boulot. Enfin, était un peu là, mais moi je vais pas faire ça. C'est mort, les gars.
Enfin, oui, c'était l'exemple de ce que tu voulais pas faire finalement.
Ouais, mais pourtant ils sont super, quoi. Mais c'est... Pour eux, ça allait. Moi, ça ne m'ira pas, ça ne m'ira jamais. Il n'y a pas moyen, quoi. Je préfère mourir, en vrai, que de vivre ça. Enfin, d'aller tout le temps au même endroit, tous les jours. J'avais fait une année dans un bureau de formation. Mais je suis ressortie de là en dépression, mais oui. Très, très basse. Je suis moitié anorexique. Je ne parlais plus, je perdais mes cheveux. Je ne pouvais plus. Juste parce que j'étais dans un bureau pendant un an. Alors, je suis très sensible à ça. Moi, j'ai besoin de faire ma vie et qu'on me foute la paix, quoi.
Alors la liberté pour toi, c'est pouvoir faire ce qu'on veut de ces journées.
Ouais, au maximum. Après, il y a des trucs, t'es obligé. Hein. Tu peux pas toujours faire ce que tu veux, mais il y a... Ouais, de pousser les murs, quoi. Puis d'essayer de multiplier ces moments de liberté.
Si tu devais parler à la Sarah qui avait 20 ans, qu'est-ce que tu pourrais lui dire?
Oh bah vas-y. Alors, franchement, je la trouve canon, cette fille. Hein. Alors je l'ai connue un petit peu, mais je trouve qu'elle allait quand même le faire, quoi. Et je suis tellement heureuse qu'elle soit bougée le cul pour moi maintenant et... On est là même, là, ça fait un peu double personnalité, mais en vrai, j'ai beaucoup de chance d'avoir osé à l'époque faire mon truc, quoi. Et du coup, maintenant, je lui dirais juste, t'es dans le juste, meuf, continue, tout va bien se passer. Et puis...
N'aie pas peur.
Et merci. Putain, merci, quoi.
Il y a une magnifique lettre que tu as écrite, je ne vais pas toute la lire, parce qu'elle est assez longue. C'est une lettre à ta solitude. Je mettrai le lien dans ma description pour celles et ceux qui voudraient la lire. Est-ce que c'est important d'apprivoiser sa solitude ?
Bah, je pense, parce que il y a ce truc où de toute façon, tu nais seul, tu meurs seul, tu es seul tout le temps. Il y a des gens autour de toi, mais tu es seul. Enfin, il n'y a que toi qui es toi, qui ressent tes trucs. C'est dur de comprendre les gens à 100%, même ceux que tu adores. Enfin, t'es de toute façon seule. Donc soit tu passes ta vie à essayer d'avoir un regard de l'autre positif, soit tu te dis, bah en fait, moi je vais faire le truc pour moi, et puis j'espère que ça ira. Et voilà, mais non, il faut réussir à vivre seule, parce qu'après tu profites aussi plus des gens, c'est pas les mêmes relations. Moi je suis pas dépendante de mes amis, je suis juste tellement heureuse de les connaître. Parce que j'arrive à être seule, et ouais. Non, le fait de partir seule, c'était vraiment un truc.
Ça t'a demandé du courage, toi, de te retrouver face à toi-même, au début ?
Ouais, quand même. Alors, j'étais déjà pas mal solitaire toute mon enfance et adolescence, mais ça, c'était plus du rejet que de la solitude. C'était pas choisi. Et ensuite, j'ai trouvé quelque chose de très beau au fait d'être seule. Mais t'es pas seule, t'es avec toi. Enfin, t'es déjà un, quoi. T'es pas zéro. Et ça, j'ai beaucoup aimé, ouais. Et en vrai, moi, j'aime bien parce que du coup, je lis des livres et je suis jamais seule. Et voilà, mais il n'y a pas vraiment quelqu'un à côté de moi, quoi.
Tu te remplis à toi-même.
Ouais, mais je me suffis à moi-même. C'est quand même... C'est extraordinaire. Mais après, j'adore être avec des gens. Mais j'en ai pas besoin. Et ça, je trouve que c'est une liberté aussi qui est importante dans les relations.
Tu as mis le mot liberté. Je pense que c'est vraiment ça. Puis ça apporte peut-être des relations plus saines aussi derrière.
Ah, bah, je pense,
qui sont moins dépendantes.
Mais après, on fait comme on peut. Hein, je sais pas.
C'est clair.
C'est pas une question de juger les gens qui ont besoin du monde.
Bien sûr. Sarah, dernière petite question, la question signature du podcast. Quel conseil plus général tu aimerais partager aux jeunes d'aujourd'hui qui nous écoutent ? Aux jeunes et aux moins jeunes. Il y a de plus en plus de moins jeunes qui nous écoutent.
Tu te répands. Mais je sais pas, est-ce que j'ai un conseil ? Moi, je sais pas du tout, mais d'oser faire les choses, je pense, d'y aller et puis tout ira bien. Et voilà, ne pas avoir peur de rien parce qu'on sait même pas de quoi on a peur. Et puis d'oser. Et je vous souhaite une très belle vie.
Merci beaucoup Sarah pour tous tes petits partages et puis surtout pour la force que tu incarnes, c'est vraiment hyper hyper inspirant. Merci beaucoup.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Œil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.